Haïti, Haïti reportage. Nous sommes à Léogane. Léogane, c'est l'une des villes les plus touchées par le tremblement de terre. 90% des bâtiments ont été détruits. Cette ville se trouve à 45 minutes de route à l'ouest de Port-au-Prince. Les habitants de Léogane se sentent abandonnés. Peu de secours dans cette ville dévastée. Yanaba qui est allé. Il a rencontré Baudelaire d'Orville. Oui, son prénom est Baudelaire. C'est un technicien des télécoms qui passe ses journées sur les ruines de sa maison. Il a perdu beaucoup de ses proches. Il a perdu tous ses biens matériels. Il n'a sauvé que sa guitare. Et toute la journée, il ressasse ses souffrances en écrivant des chansons.
Mentalement, ça ne va pas. Je suis sous l'émotion et j'aimerais avoir... Et bon, je ne sais pas comment je peux faire ça. Et j'aimerais voir un psychologue. Je te présente mon pays. Il s'appelle Haïti. Regarde-le aujourd'hui. Jadis si fier et si joli. Ça roule toujours dans ma tête. Le tremblement de terre m'a secoué. Elle m'envoie à gauche, elle m'envoie à droite. Et les maisons s'écoulent. Bouf! Tous les gens sont en train de courir partout. Moi, je crie au bon Dieu, sauvez-moi. Je mets à genoux et ça m'envoie biou. Ça m'envoie biou par ici. Bah, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Les gens, ils sont les bras coupés, surtout les enfants. Ok, tu veux voir ma maison? Regarde aussi les murs. Tu peux regarder ça, tu vois? Les murs ont écoulé à l'intérieur. De l'espoir, je n'en ai plus. Le pays est perdu, le pays est vendu au changement. Je n'y crois plus. Nous l'avions tous vu, Haïti est fou, tu mets l'espoir.
Où sont nos dirigeants, nos politiciens? Nos dirigeants ne sont pas là. Maintenant, on n'a pas de nourriture. Moi, je dis, j'ai faim. Mais si je dis, j'ai faim, personne ne va pas m'entendre, excepté ma mère et ma femme et mes enfants. Mais si le président dit « je fais », tout le monde va l'entendre.
Oui, ça fait mal.
Le pays est vraiment foutu, mon gars. Plus de maison, plus de travail. Plus de sous dans ma poche. Ma mère, elle vit à Miami et elle ne sait pas si je suis en vie parce qu'on n'a pas de communication. Regarde, bon, j'ai un téléphone sur moi. Bon, ça ne vaut rien. On est démunis, on est aux arbres-bois.
Au changement, je n'y crois plus. Nous l'avions tous vu, Haïti est foutu.
Voilà, le reportage de Yanaba. Quel reportage! Baudelaire d'Orville, sur les ruines de sa maison, sur les décombres de sa maison, avec sa seule guitare. Il est 7h14, vous êtes sur RMC, nous réécouterons ce reportage un peu plus tard. 7h14, je vous le disais tout à l'heure, une petite fille de 23 jours a été sortie des décombres. 23 jours de vie, dont 7 passés sous les décombres. Elle s'appelle Joséphine. Près de 70 000 victimes ont déjà été inhumées. Mais sous les décombres des maisons, on continue de retrouver des cadavres, comme je viens de vous l'expliquer. Il faut s'en occuper, pour des raisons sanitaires. Yannick Holland, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux à Port-au-Prince. Vous avez parcouru les rues de la capitale haïtienne pour voir ce que deviennent les corps des victimes du tremblement de terre.
Eh bien, au fond d'une ruelle, je tombe justement sur un groupe de 3 hommes en train d'attacher quelque chose sur une plaque en tôle. Un corps sans vie, désarticulé. Ils le traînent sans ménagement sur les décombres de sa maison et le jettent sur le trottoir. Ils l'abandonnent là. Plus tard, quelqu'un passera sûrement pour le ramasser. Dans la rue de l'Enterrement, située face au cimetière de Port-au-Prince, les bruits de marteaux résonnent. Jean-Bertrand Jean fabrique des cercueils à la chaîne, même si en ce moment, peu de familles ont encore les moyens de s'en offrir.
Nous avons fait beaucoup de cercueils et plusieurs qualités. Nous avons fait des cercueils carrés, des cercueils ronds, des cercueils simples, des cercueils full. Il y a des personnes qui n'ont pas de possibilité de... acheter un cercueil.
Qu'est-ce qui se passe? Ils sont enterrés comment?
Eh bien, bon, si nous n'avons rien, bon, on se jette les morts. Dans les fosses communes, dans la fatra.
À l'entrée du cimetière, l'odeur est insoutenable. Désiré Dieudonne travaille sans relâche. Les gens apportent parfois des brouettes entières remplies de cadavres. Les corps s'entassent. Seule solution, ouvrir les tombes.
Mais de Port-au-Prince, on a été baillé, moqueux, pour nous capables de craser tout caveau. Non, mais non, donc le maire de Port-au-Prince leur ordonne de briser tous les carreaux pour pouvoir trouver donc, la possibilité d'enterrer les autres morts.
Ouais, mettez toutes morts qui étaient en dans le caveau.
Maintenant, ils prennent les morts qui étaient par terre, ils les mettent à la place de ceux qui étaient là auparavant. On jette maintenant les premiers cadavres, on rentre maintenant les nouveaux.
Ailleurs dans la ville, une fumée noire s'élève, les fosses communes sont pleines et les corps sont brûlés à même la rue.
Oui, Yannick, qu'est-ce que vous avez vu d'autre pendant ce reportage ?
Oui, d'ailleurs, beaucoup d'habitants se promènent dans la rue avec des masques sur le visage, un cache-nez, comme ils disent ici. Ils pensent que respirer l'odeur nauséabonde des cadavres peut provoquer des maladies. En fait, un médecin légiste français présent ici m'expliquait qu'il n'y avait pas de risque d'infection pulmonaire en respirant près des cadavres. En revanche, s'il pleut, ils peuvent infecter l'eau et provoquer des épidémies si les habitants la consomment. Le médecin colonel Sandrine Duranton est médecin sapeur-pompier.
Si on n'a pas de pénurie majeure en matière d'eau potable, effectivement, déjà, on soulage une grosse partie des problèmes d'épidémie.
Si justement les gens sont obligés de consommer, parce qu'il y en a qui l'ont fait, de consommer de l'eau non potable, quels sont les types de maladies qui peuvent survenir ?
Ben, les pathologies digestives, hein, tout ce qui est dysenterie, au pire, mais là on n'en a pas vu du tout, hein, mais bon, dans les éventualités, choléra, toutes les pathologies qui se propagent dans ce type de situation. Mais aujourd'hui, ce n'est absolument pas à l'ordre du jour.
Seul problème, la météo annonce des pluies tropicales pour la fin de la semaine à Port-au-Prince.
Voilà, reportage en Haïti, reportage d'abord de Yann Abak tout à l'heure et de Yannick Collant maintenant, nos deux envoyés spéciaux sur place, là-bas. Vous savez que vous pouvez toujours donner pour Haïti, évidemment, plus que jamais, avec la Croix-Rouge, nous sommes associés, RMC. C'est très simple, croixrouge.fr, rmc.fr. Dans un instant, tout autre chose. Damien sera avec nous, il est prof. Damien, il veut revenir sur l'absentéisme dans les écoles françaises. Pourquoi autant de profs absents ? Damien a des explications. Il est avec nous dans deux minutes, 7h18. Mathieu Béliard.
Déjà beaucoup de votes, Jean-Jacques, à la question SMS du jour. Elle est très simple, cette question. C'est peut-être pour ça que vous votez nombreux. Oui et non, oui ou non. Êtes-vous favorable à un nouveau projet de taxe carbone ? Vous dites non à 72% pour l'instant, mais vous continuez à voter. RMC oui, RMC non. 6-26-26. Marianne est dans la Drôme. Si personne n'en veut, si toutes les études démontrent que tous les Français sont contre, je ne comprends pas que Nicolas Sarkozy s'acharne. Si je voulais une taxe carbone, j'aurais voté vert, nous dit Marianne. Sylvain, lui, est dans le Pas-de-Calais. Il fait partie de ceux qui ont voté oui. Mais c'est un oui, mais il nous dit sur le principe, je suis plutôt pour une taxe carbone, mais ce que je demande surtout, c'est que le gouvernement soit clair sur la question. Je suis incapable d'expliquer comment cette taxe va fonctionner, qui va la payer, ni comment ou combien. J'ai l'impression que chez les politiques, tout le monde est d'accord, mais que personne ne va dans le même sens. Finalement, ça devient assez absurde, nous dit Sylvain qui est dans le Pas-de-Calais. Alors vous continuez à voter, oui ou non. Êtes-vous favorable à un nouveau projet de taxe carbone ? RMC oui, RMC non, 6-26-26, vous votez jusque 10h, et pour l'instant, vous dites non à 72%.
RMC, Jean-Jacques Bourdin.
L'absentéisme des professeurs, on en parle sur RMC avec vos témoignages. Damien, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques.
Damien, vous êtes enseignant dans un lycée professionnel en Corrèze, hein, à Brive-Tulle. Damien ?
Alors, je suis enseignant dans le 36, dans le Berry, mais je vis en Corrèze.
Et donc, vous vivez en Corrèze ? Vous faites la route tous les jours ?
Alors, je ne fais pas la route tous les jours parce que vous doutez bien, c'est très loin, ça fait 200 km. Oui. Donc, en fait, je reviens un peu à l'internat de temps en temps. Je suis obligé de dormir dans mon lycée plusieurs nuits par semaine. Et en fait, ce matin, je vais être très rapide, mais j'avais un coup de gueule parce que j'entendais un auditeur à 6h30. Je suis dans ma voiture, je vais au travail, qui dit « Oui, les profs, tous pareils, feignants, machin, tout ça. » Et moi, j'ai 12 ans d'éducation nationale, j'ai pas un jour de grève. C'est facile à vérifier sur mon dossier. J'ai un jour et demi en 12 ans d'arrêt maladie. Donc, je veux dire, faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Et je pense que ces gens-là, on se bat pour leurs enfants au quotidien. Et je pense que ça ne changera pas parce qu'on aime notre métier. Donc il faut éviter les généralités, c'est toujours un petit peu dangereux.
Oui, de plus en plus de parents d'élèves ne sont pas contents parce que les absences ne sont pas remplacées, les absences d'enseignants. Mais là, vous n'êtes pas responsable, hein, Damien.
Alors, on n'est pas responsable. Nous, dans mon établissement, par exemple, sur les sciences appliquées, on a eu un problème au niveau de l'hôtellerie. Oui. Et on a les professeurs de cuisine qui remplacent le professeur de sciences appliquées puisqu'on a des sciences appliquées à l'alimentation. Donc, le professeur de cuisine fait les sciences appliquées à l'alimentation. On essaye de trouver des solutions. On essaye de faire en sorte que ça se passe bien. Enfin, on y pense aux enfants parce que la plupart des profs ont des enfants aussi. Donc, on fait pas n'importe quoi quand même.
Merci, Damien, de rétablir certaines vérités. Merci.
RMC, Jean-Jacques Bourdin.
Je vous parlais ce matin de la durée de vie qui s'allonge en France et on en reparlera tout à l'heure entre 10h et 11h, ce sera le gros sujet de notre heure. On savait que la réforme des retraites serait le grand sujet de l'année 2010. Ben oui, comme la durée de vie s'allonge, le dossier des retraites est plus encore d'actualité. Nicolas Sarkozy a annoncé le 15 janvier que la réforme des retraites serait le grand sujet de l'année 2010. Ce qu'on ne savait pas, c'est que Nicolas Sarkozy avait un allié Une alliée. Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Martine Aubry, la première secrétaire du Parti Socialiste, Christophe Jacobizine. Bonjour Christophe.
Oui, en effet. Bonjour Jacques, bonjour à tous. C'est la petite révolution de ces dernières 48 heures dans le monde politique. Jean-Jacques, Martine Aubry a créé l'affolement ou au moins les inquiétudes au sein de son propre camp en tendant la main au gouvernement. On l'écoute, c'était dimanche soir au Grand Jury.
Moi, je pense qu'on doit aller très certainement vers, on va aller très certainement vers 61 ans ou 62 ans. Je n'imagine pas qu'on aille plus loin. Mais à condition qu'on traite le problème de la pénibilité et qu'on traite le problème de l'activité des seniors.
Quelle mouche a piqué Martine Aubry pour se dire prête à négocier ce qui, pour beaucoup de gens de gauche, Jean-Jacques, et notamment les socialistes, apparaît comme l'une des dernières conquêtes sociales. C'était 1983. François Mitterrand, vous vous souvenez, avait abaissé l'âge de la retraite de 65 à 60 ans.
Oui, une avancée d'autant plus importante à l'époque que toute une génération qui avait commencé à travailler très jeune avait déjà toutes ses annuités, ses 40 ans. Pourquoi Martine Aubry a-t-elle fait ce geste à l'égard du gouvernement ?
C'est la question que se posent depuis deux jours plusieurs dirigeants socialistes. Benoît Hamon, alors c'est un peu embêtant pour lui, c'est le porte-parole de Martine Aubry, mais il incarne l'aile gauche du parti. Il s'est étranglé en entendant Martine Aubry dimanche soir. Il s'est contenté de rappeler que ce n'est pas la position du Parti Socialiste que de reculer l'âge de départ à la retraite. Même Pierre Moscovici, alors lui c'est plutôt l'aile droite du Parti Socialiste, se montre réticent. La retraite à 60 ans est une borne symbolique. Je ne vois pas l'intérêt pour la gauche de la remettre en cause. Vous voyez, Martine Aubry, c'est le chien dans un jeu de quilles. Hein.
Ouais, mais alors, quel est l'intérêt de Martine Aubry de tendre la main à Nicolas Sarkozy ?
Alors, la version positive, c'est de dire que pour Martine Aubry, il s'agit d'éviter un passage en force du gouvernement. C'est la nouvelle tactique socialiste. Il faut mieux négocier, discuter, que de laisser le gouvernement faire table rase de toutes ces avancées sociales. Alors, au PS, on sait aussi, comme vous le disiez, Jean-Jacques, que les Français vivent plus longtemps. On a gagné 2 mois l'an dernier. Donc, la première secrétaire fait un geste, estimant que l'âge légal n'existe plus dans les faits, mais en contrepartie, dit-elle, elle se battra pour que le problème de la pénibilité de certains métiers soit pris en compte dans le nouveau système. Oui. Enfin, hier soir, devant
le bureau national hier soir, que
agité,
s'est-il passé
un peu agité, dur. Martine Aubry a dû défendre sa position, expliquant que la priorité absolue est la préservation du système par répartition et pas de capitalisation, mais le PS a dû faire un peu marche arrière. Le député Jean-Marie Le Guen, expert du Parti Socialiste sur les questions de santé, devait aller voir Xavier Darcos, le ministre des Affaires Sociales, le 3 février. Il a dû annoncer hier soir que ce n'était pas vrai, il n'avait jamais été question qu'il y aille.
Alors que le rendez-vous était pris.
Et donc il n'y va pas.
Il nous a menti. Eh bien, nous verrons cela avec Marisol Touraine. Pourquoi ? Parce qu'à 7h40, désormais sur RMC, rendez-vous politique tous les jours. Nous sommes à 2 mois maintenant des régionales, donc il est temps d'écouter les uns et les autres. Marisol Touraine, députée d'Indre-et-Loire, est chargée du dossier des retraites au PS. Eh bien, ça tombe bien. Elle est sur RMC dans quelques minutes. 7h-20 et tous les matins, désormais, nous sommes à 2 mois des élections régionales. Tous les matins, désormais, rendez-vous politique sur RMC à 8h-20. Et ce matin, pour commencer, Marisol Touraine, qui est députée d'Indre-et-Loire, secrétaire nationale du PS, chargée du dossier des retraites. Marisol Touraine, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Alors, Martine Aubry nous a dit qu'on devrait certainement travailler 61 ou 62 ans avant de pouvoir prendre sa retraite. Quelle est ce matin la position du PS ? Je sais qu'il y a eu bureau national hier soir. Où en est-on ?
Écoutez, la discussion a commencé, la discussion est engagée, elle va se poursuivre. Nous n'avons pas à fixer notre position en quelques jours, alors que c'est évidemment un débat qui va prendre du temps, plusieurs mois. Cela dit, Martine Aubry a dit clairement que le Parti Socialiste était conscient qu'une réforme était nécessaire, que des efforts étaient possibles, à condition que ces efforts soient justes. Ce qui nous paraît évident, c'est que ce qui a été fait jusqu'à maintenant consiste à demander toujours eux-mêmes de contribuer, et pour nous, il faut avoir une réforme juste, et en tout cas, nous allons nous engager dans ce débat sans aucun tabou, sans considérer qu'il y a nécessité d'être immobile par principe.
Alors, est-il possible que le PS accepte que l'on porte à 61 ou 62 ans l'âge légal de départ à la retraite ?
Écoutez, ce paramètre-là, il est sur la table. Je crois que...
Alors, c'est possible, Marisol Touraine ?
Oui, c'est possible, ça n'est pas forcément le point d'arrivée, mais c'est parfaitement possible, vous savez...
Envisageable, acceptable.
Enfin, ça dépendra des conditions dans lesquelles ça se passe. Vous savez, aujourd'hui, les Français ne partent pas à 60 ans. Les Français, en moyenne, partent autour de 61 ans, et c'est ce qu'a voulu dire Martine Aubry. Les Français partent autour de 61 ans, et ça cache de très grandes différences.
Je ne sais pas ce qu'elle a voulu dire, mais elle a dit on va aller très certainement vers 61 ou 62 ans. Voilà ce qu'elle a dit exactement.
Oui, mais écoutez, de toute façon, façon, c'est elle exprimera elle-même le contenu de sa position.
Enfin, c'est la première secrétaire de votre parti. Hein.
Oui, mais dans le même temps, si vous voulez, on constate que les gens partent déjà aujourd'hui en moyenne à 61 ans et que ça cache évidemment de très grandes disparités parce qu'on sait qu'en France, quand on a plus de 55 ans, c'est très compliqué d'avoir un travail, d'être employé et qu'on est le pays d'Europe dans lequel le taux d'emploi des plus de 55 ans est le plus faible. Donc on voit bien que parler de l'âge tout seul, ça n'a pas de sens. Il faut évidemment dire que nous voulons maintenir le régime de retraite par répartition, que la question des retraites est centrale dans le pacte social qui est passé avec les Français. Quand on a travaillé toute une vie, on doit savoir dans quelles conditions on va pouvoir passer sa retraite. Et ce qu'on ne dit pas assez aujourd'hui, c'est que pour faire face au déficit, l'ajustement, il se fait par le niveau des pensions. Si on ne fait rien, le niveau des pensions, c'est-à-dire concrètement le niveau des retraites que perçoivent les Français à la retraite, va baisser de plus de 25% dans les années qui viennent. On a oublié que dans les années 1950, les pauvres en France, c'était les vieux. Eh bien, nous ne voulons pas que les pauvres de demain, de 2050, ce soient à nouveau les vieux.
Marisol Touraine, est-ce que sur ce dossier des retraites, il peut y avoir compromis entre le gouvernement et le Parti socialiste ?
Écoutez, compromis, je ne suis pas certaine que le mot convienne. Oui. Nous allons...
Mais discussion.
Il y aura forcément des discussions.
Oui, au Parlement, mais bien sûr.
Il y aura évidemment des discussions. Si nous nous retrouvons sur des valeurs de justice pour la réforme, pourquoi pas ? Mais ce que nous constatons, c'est plutôt qu'aujourd'hui, le gouvernement ne va pas dans le sens de... ce que nous attendons. Qu'est-ce que nous attendons au-delà du paramètre de l'âge, de la durée de cotisation qui est sans doute aussi un élément à mettre sur la table, c'est que l'ensemble des revenus contribuent au financement de la sécurité sociale et des retraites. Or, nous n'avons pas avancé. Cela fait plus de 2 ou 3 ans qu'à chaque projet de financement de la sécurité sociale, nous demandons que les stock options, les parachutes dorés, les retraites chapeaux, les revenus du capital contribuent au régime de la sécurité sociale. Le gouvernement refuse. C'est Philippe Séguin, c'est pas un homme de gauche, c'est Philippe Séguin qui avait évalué la contribution de ces revenus à peu près 5 milliards. Ça n'est quand même pas négligeable quand on sait qu'en 2009, il manque 8 milliards pour équilibrer le régime de la sécurité sociale. Autre élément de justice, il y a ce qu'on appelle un fonds de réserve des retraites qui devait accumuler des revenus venus d'horizons divers pour aider les Français à faire face aux défis du financement des régimes de retraite. Nous avions prévu 150 milliards à l'horizon 2020. Le gouvernement actuel a limité ce financement aujourd'hui à 82 milliards d'euros. On voit bien qu'on ne peut pas se contenter de demander aux Français d'apporter leur contribution si de l'autre côté, des efforts ne sont pas demandés à l'ensemble de la collectivité.
Merci Marisol Touraine. Merci d'avoir défini la position du PS ce matin sur RMC. Rendez-vous politique, je le rappelle, tous les jours, 7h40.
RMC, Jean-Jacques Bourdin.
8h10, vous êtes sur RMC, merci d'être avec nous. Les dernières infos. Tiens, Frédéric Poutvigne, j'ai vu ça ce matin. 40% des Français regardent la télévision, je dis bien la télévision, ailleurs que sur leur téléviseur.
Ah oui,
c'est tout à fait étonnant.
Ce que nous apprend une étude qui est faite toutes les 2 ans chez les ménages, 4 Français sur 10 aujourd'hui ont regardé régulièrement en 2009 la télévision sur un autre écran que sur leur téléviseur.
Bah,
où très majoritairement sur leur ordinateur. Comment fait-on d'ailleurs? Parce que tout le monde ne le sait pas. Certaines chaînes mettent en fait sur leur site internet leur programme en direct, tout simplement. Donc là, c'est facile.
Oui, BFM TV, par exemple. TF1, par exemple.
L'enquête montre d'ailleurs que les internautes vont souvent regarder les programmes qu'ils ont manqués sur leur PC ou sur leur Mac. Et puis sinon, on peut acheter ce qu'on appelle un tuner, c'est un petit boîtier, ce qui nécessite une petite installation, mais vous avez tous les programmes en même temps, toutes les chaînes. Et puis, on regarde aussi de plus en plus en France le petit écran sur les tout petits écrans. Ouais. Alors, les téléphones portables, hein, bien sûr. Les opérateurs proposent en général l'option. Et sur les smartphones également, l'iPhone et le BlackBerry. Ouais. Je vous disais, 4 sur 10 aujourd'hui, Français regardent la télé ailleurs que sur leur téléviseur. C'était 3 sur 10 il y a 2 ans. Donc, ça grimpe.
Hein. C'était un gros dossier de Micro Hebdo il y a quelques jours. Ouais. Hein. Il est 7h51. Vous êtes sur RMC. Tout autre chose après la télévision, la radio, les Jeux de Vancouver.
RMC en piste pour les Jeux Olympiques Vancouver 2010.
Ah, c'est bientôt, ça approche, hein, Vancouver. Ça commence quand, Virginie?
Dans 23 jours, exactement.
Dans 23 jours, Vancouver. Eh bien, tous les matins, vers moins 10, 8h moins 10, on vous raconte une belle histoire avant ces Jeux. Aujourd'hui, Virginie, vous nous parlez du slalomeur Julien Liseroux et de sa famille.
Ouais, parce que c'est d'abord une histoire de famille. Pitchoun, la maman, suit son fils partout sur le circuit. Alors, c'est par coquetterie, hein, qu'elle se fait appeler Pitchoun. Elle ne veut pas dire Pitchoun, son vrai prénom. Voilà. Pitchoun, donc, circule à camping-car, c'est sur joli, les routes de montagne. Oui. Et puis, elle s'arrête à chaque station qui accueille une épreuve de Coupe du Monde. Elle vit le ski de son fils à fond. Il y a des cris, il y a des larmes, il y a des comptes rendus aussi, parce que Pitchoun écrit son carnet de bord pour le site internet de sa station, La Plagne. Julien Liseroux lui dit qu'il a besoin de sa mère à ses côtés, surtout depuis la mort de son frère. Johan était l'entraîneur de l'équipe de France de ski de bosse. Il s'est tué lors d'un saut à Wengen à l'été 2008. Julien s'est replié sur lui-même pendant un mois, puis il est revenu, il a commencé à avoir ses meilleurs résultats, comme sa victoire au slalom de Kitzbühel il y a un an. Sur le podium, il ne pensait qu'à son frère, avec l'art de positiver. Il dit qu'il vient à Wengen avec plaisir. Pour lui, ce n'est pas l'endroit où Johan s'est tué, mais le dernier endroit où il a vu son frère vivant. À Vancouver, Pitchoun sera normalement à ses côtés. Et Johan, évidemment, dans ses pensées.
Il est 7h52. Merci Virginie. Rendez-vous demain, évidemment. Dans un instant, Philippe, c'est l'un de nos auditeurs. Il revient sur le classement des chanteurs les mieux payés. Mathieu Béliard, c'est Monsieur Plus. C'est pas Auto Plus, c'est Monsieur Plus.
Monsieur SMS, Monsieur RMC. Plus, Monsieur RMC, oui, RMC non, 6, 26, 26. Et oui, pour l'instant, c'est RMC non à 74% non à cette question. La taxe carbone, êtes-vous favorable à un nouveau projet de taxe carbone? Hervé est dans le Tarn-et-Garonne. Il nous dit que cette taxe était injuste au départ et elle le sera toujours dans sa nouvelle version. Ce sont toujours ceux qui ont les moyens de passer au vert qui seront épargnés. Si j'avais les fonds pour changer de voiture, croyez-moi que je l'aurais déjà fait. Claire est dans les Hauts-de-Seine. Elle nous dit ce que je vais dire est peut-être un peu présomptueux, mais si cette taxe est nécessaire, ça veut dire qu'il est nécessaire d'éduquer la population. D'abord, expliquer dans un langage cohérent ce qu'elle est vraiment, et ensuite, éduquer toute la population à l'environnement, l'écologie, et ce, dès la petite école. On a aussi ce message qui nous dit si la majorité des Français est sensible au réchauffement climatique, mais c'est également que la taxe carbone ne servira qu'à remplir les nombreuses caisses vides de l'État et non à enrayer le réchauffement climatique, nous dit Nicolas dans l'Isère. Alors oui ou non, êtes-vous favorable à un nouveau projet de taxe carbone? Bien, par SMS, vous votez RMC oui, RMC non, 626.
RMC Bourdin & Co. Pour intervenir en direct, 3216, touche 1.
Il s'appelle Philippe, il est auditeur d'RMC, cadre commercial dans les Hauts-de-Seine. Ça va Philippe?
Ça va, merci Jean-Jacques, et vous?
Bon, très très bien. Merci d'être avec nous le matin. Vous savez que vous êtes de plus en plus nombreux et je vous remercie tous. Philippe?
Je suis avec vous tous les matins Jean-Jacques, c'est vrai, même si j'appelle rarement parce qu'en général je suis en voiture et c'est pas conseillé.
Oui. Bon. Bon, Philippe, alors les chanteurs les mieux payés, je donnais le classement tout à l'heure.
Ouais.
Ah, vous me faites une remarque qui est une bonne remarque, Philippe, allez-y.
Eh bien, simplement, vous avez donc précisé que dans les 10 chanteurs les mieux payés, il y avait un certain David Guetta,
ouais,
qui est tout sauf un chanteur, même si ouais, j'ai rien contre David Guetta. oui, il est disque jockey, mais pas chanteur.
Voilà. Bah, on écoute d'ailleurs. Et David Guetta, non, mais c'est... Il y a de l'ambiance ce matin sur RMC, je vous le dis. Hein. Et puis il y a Marie qui est en train de danser. Mathieu, lui, c'est Monsieur Plus. Donc lui, il est collé à son standard. Bon.
Je suis d'accord avec Philippe, c'est pas un chanteur.
Et Isabelle Saporta est croulée de rire bah, avec ça. Bon, mais merci Philippe.
Bah, écoutez, il n'y a pas de quoi. Bonne journée Jean-Jacques.
Bonne journée, merci Philippe. Il est 7h55, justement la conso, tout de suite. Avec Isabelle Saporta.
Bonjour. Bonjour
Jean-Jacques. J'attendais
un petit
jingle, mais
c'est
pas
fini,
venu.
C'est terminé.
David Guetta, le jingle.
Voilà.
C'est notre jingle du matin, Guetta. Bon, que se passe-t-il à Oudkerk? C'est oui, un village de 850 âmes situé près de Dunkerque. Les habitants se battent contre le projet d'une gigantesque porcherie de 2000 bêtes.
Alors Jean-Jacques, c'est vrai que les porcheries industrielles dans l'ensemble, déjà ça fait pas rêver, mais en plus là, le projet est d'autant plus mal vu qu'il est porté par un agriculteur belge.
Aïe.
Qui a épuisé son quota d'épandage de lisier en Belgique et qui du coup vient le mettre chez nous en France quoi.
Alors attendez, il faudrait que je comprenne. Les Belges viennent polluer chez nous quand ils ont dépassé leur quota de lisier chez eux.
C'est exactement ça Jean-Jacques. Du coup, ni vu ni connu, une fois leur quota dépassé, ben les Belges traversent la frontière pour venir polluer chez des voisins un petit peu moins regardants. Hein. D'ailleurs, le président d'une association écologique locale est ivre de rage. À certains endroits, Jean-Jacques, accrochez-vous bien, il a mesuré jusqu'à 100 mg de nitrate par litre d'eau. Et ça ne va pas s'arranger Jean-Jacques, puisqu'il y a les dossiers d'implantation de porcherie industrielle se multiplient dans un rayon de 10 km² seulement au cœur
voilà
des Flandres.
Voilà un bon sujet. Hein.
Oui.
De fait, à Bamberg, qui est à 6 km d'Oudkerque, on essaie aussi de s'opposer à l'implantation d'une porcherie de 3000 bêtes.
Et là encore, Jean-Jacques, ce sont des Belges qui veulent s'installer. Alors, le côté positif, c'est qu'à Oudekerk, l'enquête publique s'est soldée par un avis défavorable, et à Bambeck, le conseil municipal s'arc-boute contre le projet. Mais Jean-Jacques, c'est pas gagné, tout reste suspendu à la décision du préfet.
Alors, quel serait l'impact de ces installations ?
Jean-Jacques, juste un chiffre. Pour répandre le lisier de 2000 cochons, il faudrait 200 hectares de terre. 200 hectares dans cette région, c'est l'équivalent des 8 communes alentour pour toutes les terres agricoles.
Merci Isabelle.